Chéquia, oui, pour meubler, merci. Merci pour cette aide venue de l'Assemblée. Si d'autres veulent meubler, n'hésitez pas. Ah, ça y est. Donc ça enregistre là. Ok, super. Et le PowerPoint est là. Très bien. Eh ben, on va pouvoir démarrer, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais quand même poser ça parce que j'ai besoin de mes mains. Voilà. La question par laquelle je débute, c'est qu'est-ce qu'un homme fort ? On a du mal à voir le rapport, peut-être. Qu'est-ce qu'un homme fort ? Qu'est-ce qu'une femme forte ? Et c'est une question que je pose parce que il me semble, quand on regarde les dirigeants que le monde se choisit en ce moment, qu'on est à la recherche d'hommes forts et de femmes fortes. Alors j'ai vu deux définitions sur Internet, parce que c'est un vrai terme, voilà, c'est sur Wikipédia, si vous cherchez « homme fort », c'est un terme qui existe en politique, et qui parle de ça. C'est un dirigeant politique appliquant ses mesures par force et conduisant la plupart du temps un État autoritaire ou totalitaire. Une autre définition, c'est un individu politique ou militaire charismatique qui exerce une influence envers le gouvernement bien supérieure à ce que la Constitution nationale autorise. Autrement dit, c'est un homme ou une femme qui montre les muscles, quoi. C'est ça un homme fort, qui en impose, quitte éventuellement à s'asseoir un peu sur les règles du jeu. C'est un gars ou une fille qui s'en laisse pas compter, quoi. C'est ça un homme fort. Et nous, ça nous rassure parce qu'on a là quelqu'un qui a l'air bien campé sur ses deux pieds, et ce quelqu'un propose de régler nos problèmes, de résoudre nos problèmes. Et il a l'air de savoir où il va, il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc ça nous rassure. Malgré tout, on peut se demander si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est sage de remettre nos problèmes, nos difficultés, dans les mains d'un autre ? Est-ce qu'il n'est pas préférable de devenir fort soi-même et de résoudre ses problèmes soi-même ? Alors du coup, il y a une autre question qui se pose qui est, ben, ça veut dire quoi être fort ? En quoi ça consiste ? Comment le devenir ? Comment être bien campé sur ses deux pieds ? Et question subsidiaire, est-ce que vous feriez confiance à un pasteur débraillé, malfagoté, ridicule ? Je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est lumière et vie. Nous te remercions parce que ce n'est pas une parole comme une autre. C'est une parole vivante, c'est une parole qui transforme. C'est une parole qui vient nous chercher au plus profond de nos difficultés, au plus profond de nos obscurités, et qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, nous sommes nombreux à avoir vécu cette expérience. Nous sommes reconnaissants pour ce que ta parole a déjà fait dans nos vies et nous sommes reconnaissants pour ce qu'elle continue à faire jour après jour. Alors c'est comme ça que nous voulons l'aborder, Seigneur, ta parole aujourd'hui, comme une parole qui vient de toi et qui a ce pouvoir-là, cette puissance-là de nous transformer de l'intérieur parce que toi, quand tu dis, la chose se passe. Seigneur, nous brisons maintenant en nous-mêmes tous les obstacles, tous les murs qui peuvent se dresser entre nous et ce que tu as à nous dire. Et nous voulons être simplement réceptifs et entendre ta voix. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va aller en Marc 15, versets 16 à 32. Qui nous parle d'un roi sur la croix. Et le texte nous dit ceci. Les soldats amenèrent Jésus à l'intérieur du palais, le prétoire, et ils appellent toute la cohorte. Ils l'habillent de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Bonjour, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, lui crachaient dessus, et fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Pour porter sa croix, il réquisitionne un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'est la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi, qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ». Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ». Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Alors on est dans le contexte assez évident, je crois, de la passion de Jésus. La passion, c'est toutes les souffrances qu'il a endurées depuis son arrestation jusqu'à sa mort à la croix. La semaine dernière, tout le monde n'était pas là, mais Marilyn nous a parlé de son arrestation dans le jardin de Gethsémané, de son pseudo-procès religieux devant le Sanhédrin, qui est le conseil chargé de juger les affaires religieuses sous l'occupation romaine. Elle nous a parlé de Jésus confronté à la souffrance, de la peur des disciples qui s'enfuient, et de Jésus, au milieu de tout ça, qui tient ferme. On est maintenant au lever du jour du vendredi. Pierre a déjà renié Jésus par trois fois. Jésus a été livré à Pilate, qui prononce sa condamnation à mort en cédant comme ça à la pression de la foule. Et Jésus, maintenant, est entre les mains des Romains. Alors, on pourrait se dire qu'il est en meilleure main, quelque part, parce que ces histoires entre religieux juifs, qu'est-ce que ça leur importe? Ils s'en moquent pas mal, en vrai. Peut-être même qu'ils auront un peu de compassion pour ce pauvre gars condamné pour on ne sait pas trop quoi. Même Pilate ne voyait pas le mal que Jésus avait pu faire. La femme de Pilate l'avait prévenu en lui disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Là encore, des rêves. Alors on pourrait se dire « Ça devrait mieux se passer pour Jésus entre les mains des Romains. » Et en fait, eh bien non, ça ne va pas être mieux. « Bonjour, roi des Juifs !» Voilà comment il est accueilli. Parce que les soldats romains, en fait, un roi dans cet état, ça les fait bien rire. Eux, ils savent ce que c'est qu'un roi. Ça ne ressemble pas du tout à ce pauvre juif sorti de Nazareth. Ils savent ce que c'est. Eux, au-dessus d'eux, les soldats, ils ont le gouverneur romain de Judée, par exemple, et c'est Pilate. Et Pilate, face au roi des Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se lave les mains du sort de Jésus. Il s'en lave les mains de ce roi-là. Et Pilate, ce n'est même pas le plus haut gradé. Au-dessus, il y a Hérode Antipas, qui est tétrarque de Galilée. Et Hérode, il a rencontré Jésus. Il voulait le rencontrer. Il voulait le voir faire un signe, autrement dit, le voir faire un miracle. Et Jésus n'a pas répondu à sa demande. Alors Hérode l'a traité avec mépris. « Puisque tu ne veux pas m'amuser, ma foi, va voir ailleurs. » Hérode, ce n'est pas non plus le plus haut placé. Au-dessus d'Hérode, il y a l'empereur Tibère, qui règne donc sur tout l'Empire romain. Et Tibère, lui, ne sait même pas que Jésus existe. Alors ça, un roi pour les soldats romains, c'est un curieux roi toujours. C'est surtout une bonne occasion de s'amuser. Et comme on s'amuse mieux à plusieurs, ils appellent toute la cohorte. Alors j'ai regardé, une cohorte, c'est entre 480 et 600 hommes. On peut supposer qu'ils ne sont pas tous venus, parce que le prétoire n'est pas assez grand, mais en tout cas, ils ont envie de rameuter du monde, quoi. Parce que là, il y a quand même une belle matière d'amusement. Donc ils ramènent du monde pour se moquer du roi des Juifs. Alors tout à l'heure, je me suis un peu auto-ridiculisé pour l'exemple. Jésus, lui, va être ridiculisé par d'autres. Il l'habille de pourpre, couleur royale par excellence. Il pose sur sa tête une couronne d'épines tressées. Pilate ensuite, on ne le voit pas dans notre texte, mais on le voit dans l'évangile de Jean, Pilate va faire fouetter Jésus pour voir si par hasard la foule s'en contenterait, parce que quand même Pilate se rend bien compte qu'il n'a rien à reprocher à Jésus. Mais la foule ne s'en contente pas. « Crucifie-le », dit la foule. Il se moque de lui. Il lui frappe la tête avec un roseau, il lui crache dessus, il se prosterne devant lui pour mieux se payer sa tête, et puis finalement il lui enlève la pourpre, lui remet ses vêtements et l'emmène pour le crucifier. Alors, voilà, dans certaines traditions chrétiennes, on fait parfois des chemins de croix qui revêtent quelque chose d'assez solennel. On peut imaginer que ça n'a pas été hyper solennel, ce chemin de croix de Jésus. Il a continuer de subir les moqueries, les crachats, les insultes. Et la question qu'on peut se poser, c'est: Jésus était-il moins roi parce qu'on se moquait de lui? Est-ce qu'il était moins roi dans son ridicule habit de pourpre et sous sa couronne d'épines? Est-ce qu'il était moins roi sous les crachats et les coups? Est-ce que j'étais moins pasteur ou moins Laurent quand j'étais avec mes habits ridicules? Jésus n'était pas moins roi, parce que ce ne sont pas les hommes qui décident de la valeur de leurs semblables. Et ce qui fait de Jésus un homme fort ici, c'est qu'il sait qui il est. Il sait qui il est, et il sait que ce qu'il est ne dépend en rien de ce qu'on dit ou de ce qu'on croit de lui. Il est roi et il règne. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, ça ne change rien. Pour lui, ça ne change rien. Pour nous, ça change des choses. Mais pour lui, ça ne change rien. Jésus savait qui il était. Et c'est tant mieux, parce qu'il n'était qu'au début de ses peines. Jésus, ce n'est pas seulement un roi humilié, c'est aussi un roi crucifié. Il y a un pauvre gars qui passe par là et qui est réquisitionné. Le texte nous dit qu'il venait de la campagne. En fait, on sait qu'il venait de Cyrène. Cyrène, c'est en Afrique du Nord, c'est aujourd'hui en Libye orientale. Et dans cette ville, il y avait une forte communauté juive. Donc Simon de Cyrène, c'est en fait un juif qui vient d'Afrique du Nord et qui est là en pèlerinage, comme plein d'autres gens, parce que c'est la Pâque. Il est venu à Jérusalem au moment de la Pâque pour la vivre là-bas. Et le voilà embarqué malgré lui dans la plus grande Pâque que l'histoire du monde ait vécue. À Jésus, on va lui proposer du vin aromatisé de myrrhe, c'est-à-dire un anesthésiant, et il va le refuser. On va lui ôter ses vêtements, on le crucifie, et les soldats se partagent ses vêtements, et puis on indique le motif de sa condamnation: le roi des Juifs. Et ça va faire s'étrangler les chefs religieux, qui vont dire à Pilate: mais non, il ne faut pas écrire le roi des Juifs, il faut écrire: celui-là a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate va répondre: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et effectivement, Jésus était-il moins roi parce qu'il était trop faible pour porter sa croix seul? Est-ce qu'il était moins roi parce qu'il était nu sur la croix? Est-ce qu'il était moins roi parce qu'il était crucifié, ce qui était un signe d'abomination pour le peuple d'Israël? Jésus n'était pas moins roi parce que ce ne sont pas les hommes qui décident de ce qu'est un trône, ni de ce qui est glorieux ou de ce qui est honteux. Ce qui fait de Jésus un homme fort, encore une fois, c'est qu'il sait qui il est, et que ce qu'il est ne dépend en rien de ce que les hommes croient lui faire subir. Il sait, lui, que c'est par cet outrage même qui lui est fait qu'il va être glorifié. Et c'est tant mieux, parce que ça ne s'arrête toujours pas là. Jésus n'est pas seulement un roi humilié, un roi crucifié, c'est aussi un roi rejetés. La Bible nous le dit, c'est dans l'évangile de Jean, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et ce n'est pas seulement les chefs religieux qui l'insultent et se moquent, ce ne sont pas seulement les Romains, ce sont aussi les passants, ceux qui passent par là, et même les bandits qui sont crucifiés avec lui, tout le monde. Par un autre évangile, on sait que ce n'était pas tout à fait tous les bandits, c'était l'un d'entre eux. Mais quand même, on pourrait espérer que ceux qui partagent sa condition, si les Romains, eux, n'avaient pas de compassion, peut-être que ceux qui partagent sa condition vont avoir, eux, un peu de compassion à son égard. Et non, eux aussi se moquent. Les disciples, quant à eux, ça fait belle lurette qu'ils ont d'étaler. Jésus est rejeté de tous, il est seul et abandonné, sauf par les femmes, je trouve que c'est intéressant de le dire, qui sont là au pied de la croix et qui entendent les autres dire « Sauve-toi toi-même, descends de ta croix. Toi qui disais pouvoir détruire le temple et le reconstruire en 3 jours, ben vas-y, c'est le moment, montre maintenant qui tu es. » Et à nouveau la question, est-ce que Jésus était moins roi parce qu'il ne descend pas de la croix? Est-ce qu'il est moins roi parce qu'il ne cherche pas à se sauver lui-même? Est-ce qu'il est moins roi parce qu'aucune armée ne vient le délivrer de son supplice? Et la réponse est à nouveau la même. Jésus n'était pas moins roi parce que ce ne sont pas les hommes qui décident de ce que doit faire le roi. Ce n'est pas à eux de dicter au roi ce qu'il doit faire. Et ce qui fait de Jésus un homme fort ici, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire et il le fait, quelle que soit la pression qui l'entoure. Contrairement à Pilate, il ne laisse pas la foule lui dicter ce qu'il doit dire, ni ce qu'il doit écrire, peu importe ce que les autres pensent ou ce qu'ils projettent sur lui de ce qu'ils imaginent que devrait faire un roi. Jésus aurait pu descendre de la croix, ce qui rend d'autant plus remarquable le fait qu'il ne l'ait pas fait. Jésus est roi et il fait ce qu'il veut. En fait, les hommes n'ont rien compris. Et au premier rang d'entre eux, ceux qui étaient les mieux placés pour comprendre, les chefs religieux. Ça rend humble, hein, franchement. Ésaïe 53 dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. » Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ et qui parle du Messie à venir. Et les chefs religieux, ils connaissent ces textes. Ils les connaissent. Ils connaissent Zacharie 9, verset 9, qui dit « Voici ton roi qui vient à toi, humble et monté sur un âne. » Et ils ont vu Jésus entrer à Jérusalem, monté sur un âne. Ils connaissent cette parole du psaume 22, qui est un psaume messianique, qui annonce la venue du Messie et qui dit « Il partage mes vêtements et tire au sort mon habit. » Ils connaissent ces textes. Et ils voient que tout cela arrive devant eux, sous leurs yeux. Mais aveuglés par leur incrédulité, ils n'ont pas su reconnaître le serviteur souffrant, le Messie qu'ils attendaient pourtant depuis des siècles. Ou peut-être aveuglés aussi par cette parole du Deutéronome 21-23 qui dit que celui qui est pendu au bois est malédiction de Dieu. Comment le Messie pourrait-il être malédiction de Dieu? Et pourtant, il l'est. Il est malédiction de Dieu parce qu'il porte sur lui notre condamnation. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, dit Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens. Paul dit aussi, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et là, comment vous voulez que les Romains comprennent ça? Quelle différence avec les rois de ce monde? Comment vous voulez que les bandits comprennent ça? Eux pour qui la royauté et le pouvoir sont synonymes, vont main dans la main avec la violence, la force exercée sur des sujets, eux qui ont pour exemple un Pilate, un Hérode, un Tibère. Quant à nous, dit Paul, nous prêchons un Christ crucifié, ce qui est un scandale pour les Juifs et ce qui est une folie pour les païens. Jésus est resté sur la croix non parce qu'il ne pouvait pas en descendre, mais parce qu'il ne voulait pas en descendre. Et il ne voulait pas en descendre parce qu'il n'est pas venu pour se sauver lui-même, pour se servir lui-même, mais pour nous sauver, nous. Quelle différence avec les rois de ce monde. Alors voilà, un jour, on rira de votre foi. Un jour, elle sera tournée en ridicule. On la vêtira de pourpre, on lui mettra une couronne d'épines et vous recevrez des paroles qui seront comme des gifles. Et parfois, pas que des paroles, d'ailleurs. Et pas que des gens du dehors. On aimerait pouvoir dire ça. Malheureusement, non. Je crois que les pharisiens nous le rappellent, les chefs religieux juifs nous le rappellent, les religieux aussi ont voulu la mort de cet homme fort qu'était Jésus, cet homme qui savait qui il était et ce qu'il faisait. Et cela existe encore aujourd'hui et crucifie encore aujourd'hui, plus souvent en parole qu'en acte, heureusement pour ce qui est de nos contrées, ce qui n'est pas le cas ailleurs, dans d'autres pays. Il crucifie encore aujourd'hui ceux qui savent qui ils sont et ce qu'ils font. Un jour, vous entendrez ceux-là même qui ont le plus besoin de découvrir la perle de grand prix qu'est Jésus-Christ, ceux-là même qui sont perdus, les bandits de grand chemin qui sont là, à votre droite et à votre gauche, vous les entendrez vous rironner et mépriser la foi qui vous donne la vie et qui pourrait sauver la leur. Et dans ces moments-là, la tentation est grande de fuir, comme le disciple qui est parti tout nu, dont nous a parlé Marilyn la semaine dernière. Fuir parce que humilié, crucifié, rejeté, c'est pas très agréable à vivre. Ces jours-là, on se demande vraiment si le jeu en vaut la chandelle. Et on a besoin alors de se rappeler que rien de ce que disent les hommes ne définit qui nous sommes ni notre valeur. Rien de ce qu'ils projettent sur nous, de ce que devrait être un chrétien, par exemple, on l'a entendu tout à l'heure, plutôt être païen qu'être un chrétien comme toi, on l'a entendu tout à l'heure. Rien de ce que les gens projettent sur nous, de ce que devrait être un chrétien, de ce qu'on devrait dire, faire ou penser, ne change quoi que ce soit à notre mission sur la terre. Tu es enfant de Dieu, tu es disciple du Christ, et tu marches à la suite d'un roi qui est passé par le chemin par lequel tu passes. Ce que tu vis, Jésus l'a vécu avant toi. Et au bout du chemin, il a été exalté. Il siège à présent dans les lieux célestes, à la droite du Père, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Et toi, uni à lui par le baptême, dans sa mort, et c'est ça qui coûte, la croix, ça coûte, mais aussi dans sa résurrection, tu es assis en lui dans les lieux célestes. Et c'est ce qui fait de toi un homme et une femme libres, bien campés sur ses deux pieds, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les moqueries, les humiliations, quel que soit ce que les autres peuvent dire ou penser. En Christ, tu es un homme fort, tu es une femme forte, certes, à la manière du royaume et non à la manière du monde, parce que tu sais qui tu es et tu sais qui est ton Dieu. Je vais prier. Seigneur, parfois on dépeint les chrétiens comme des faibles qui ont peur de la mort et qui se rassurent à bon compte. Seigneur, nous nous reconnaissons bien volontiers comme faibles parce que le monde est vaste, l'univers est vaste, parce que la vie est immense. Nous nous reconnaissons bien volontiers comme faibles, mais nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous rends forts. Parce que dans notre faiblesse, Seigneur, toi tu viens nous chercher, tu nous appelles par notre nom, tu nous montres qui nous sommes, tu nous donnes une identité nouvelle, tu nous montres à quoi tu nous appelles, quel est le but de notre vie, pourquoi nous sommes là. Et nous sommes là en fait pour marcher à la suite de ton Fils, qui est venu pour restaurer la relation entre Dieu et les hommes, entre les hommes entre eux, qui est venu pour guérir les cœurs brisés, guérir ceux qui, qui ne savent plus reconnaître leur main droite de leur main gauche, qui sont perdus dans ce vaste monde, qui se présentent à nous comme, ils se présentent à nous comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Celui-là, oui, on veut bien le suivre. Celui-là, oui, nous reconnaissons en lui un homme fort, bien que le monde ne le voit pas et voit en lui un homme humilié, crucifié et rejeté. Nous savons, Seigneur, qu'il règne, que tout est dans sa main. Et nous avons en lui toute l'assurance dont nous avons besoin, une assurance ferme qui nous maintient debout dans l'adversité. Pas parce que nous sommes forts par nous-mêmes, mais parce que nous sommes forts en toi et par toi. Alors nous sommes reconnaissants, nous te remercions pour ce que tu as fait de nous, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions parce que ce n'est pas une chose que tu fais une fois, il y a le moment de la rencontre et puis il y a ensuite tout ce que tu fais tout au long de notre vie. Et merci pour cette grande aventure que tu nous permets de vivre avec toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, en réponse à cette prédication, nous allons prendre un chant.